Bonjour, au micro Idrissa Seloulia. Au moins, à moins de 3 semaines de la présidentielle du 18 octobre en Guinée, Amnesty International a dénoncé ce jeudi la répression des manifestations à l'origine de la mort d'au moins 50 personnes en un an, ainsi que l'immunité dont jouissent les forces de sécurité, selon un rapport de l'ONG. Dans une réponse que l'AFP a pu consulter, le ministère de la Sécurité estime que ce rapport ne paraît pas garantir une vision neutre et objective de la situation et constitue, je cite, « un réquisitoire exclusivement à charge contre notre gouvernement ». Fin de citation. Mercredi, un jeune homme a été tué par balle dans une ville du centre de la Guinée, fief de l'opposant Sélou Dalein Diallo, candidat à la présidence. Nous y reviendrons dans un instant avec Michel Joseph. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame, Simone Gbagbo, a accusé l'armée française de ne pas l'avoir protégée contre des tentatives de viol lors de son arrestation en 2011. Elle a plaidé par ailleurs dans un entretien à France 24 pour un report de l'élection présidentielle du 31 octobre. Selon Madame Gbagbo, il n'y aura pas d'élection, les gens sont déjà dans la rue, les violences, nous les vivons déjà. Depuis que Monsieur Ouattara a annoncé sa candidature en troisième mandat, les Ivoiriens sont descendus spontanément dans la rue. Le bain de sang, nous le vivons déjà, a affirmé Madame Gbagbo. La Cour de cassation française a définitivement validé mercredi la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide des Tutsis au Rwanda et arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale. En Sierra Leone, les enquêteurs anticorruption ont annoncé mercredi avoir convoqué l'ancien président Ernest Bai Koroma, les autorités ayant promis de récupérer des dizaines de millions de dollars qui se seraient volatilisés sous sa présidence. Plusieurs anciens responsables ont déjà été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics engagé par son successeur, Julius Maada Bio. L'ex-ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga, condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds dans la lutte contre Ebola, a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, notamment pour violation du droit à un procès équitable et privation de liberté illégale, ont indiqué mercredi ses avocats. Face à une explosion inquiétante des cas de COVID-19, le gouvernement espagnol a décidé mercredi d'imposer, après un long bras de fer, un bouclage de Madrid rejeté en bloc par les autorités locales. Les essais cliniques du vaccin expérimental contre le COVID-19 de la société américaine Moderna, l'un des plus avancés, ne produiront pas de résultats avant le 25 novembre au plus tôt. C'est ce qu'a estimé mercredi son patron, qui exclut donc toute commercialisation avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Fragilisées par la crise sanitaire, les compagnies américaines American Airlines et United Airlines ont annoncé mercredi soir qu'elles allaient commencer à licencier respectivement 19 000 et environ 13 000 de leurs salariés, faute d'un accord au Congrès américain sur une nouvelle aide au secteur aérien. Un tribunal de Las Vegas a validé mercredi un accord à l'amiable conclu entre le groupe d'hôtellerie et de casino MGM Resorts et les proches des victimes et des survivants de la fusillade du 1er octobre 2017, qui avait fait 58 morts dans cette ville. L'entreprise avait été assignée en justice par plus de 2000 personnes car le tireur avait fait feu depuis une fenêtre de l'hôtel, propriété du groupe hôtelier. la suite de nos informations. En Guinée, un jeune homme a été tué mercredi par balle dans le centre du pays, fief de l'opposant Sélou d'Alain Diallo après une visite du Premier ministre en campagne pour un troisième mandat au président Alpha Condé. Le point avec Michel Joseph.
Habib Petel Diallo, âgé d'une vingtaine d'années, a été tué à Dalaba dans une manifestation contre la venue du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, directeur de campagne du président Alpha Condé. Dalaba se trouve dans la région du Fouta Djallon, bastion de Sélou d'Alain Diallo, principal opposant au président sortant. Le convoi du Premier ministre a essuyé des jets de pierre mardi à Labé, puis Dalaba, a indiqué le gouvernement qui y voit un plan pour saboter le processus électoral et a promis de réprimer ces agissements. Plusieurs associations ouest-africaines de la société civile, dont le mouvement Y'en a marre au Sénégal, ont tiré la sonnette d'alarme sur les risques de violence dans la sous-région. Une mission de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU est attendue aujourd'hui ou demain à Conakry.
Au Nigeria, 10 soldats ont été tués dans une attaque contre un convoi militaire autour du lac Tchad, dans le nord-est du pays, où sont très actifs les djihadistes. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon les mêmes sources, 8 soldats ont aussi été blessés. Des combattants présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tendu une embuscade à des soldats non loin de Marthe, une localité proche du lac Tchad, bastion de ce groupe djihadiste qui a fait scission avec Boko Haram en 2016. Les assaillants ont ouvert le feu avec des armes automatiques et des lance-grenades sur le convoi militaire qui apportait des vivres et des équipements à des troupes stationnées dans la zone. Les djihadistes se sont emparés de la cargaison et ont mis le feu à 2 véhicules avant de s'enfuir dans la brousse, ont ajouté ses sources. Cette attaque intervient peu de temps après le bombardement par l'armée nigériane de plusieurs camps djihadistes dans cette région. Le groupe ISWAP a récemment intensifié ses attaques contre l'armée, mais aussi contre les civils.
Le chef du Pentagone, Mark Esper, a signé mercredi, lors de sa première visite en Afrique, un accord de coopération militaire sur 10 ans avec la Tunisie, saluant un rapprochement pour faire face à la dégradation de la sécurité en Libye. Précision de John Linden.
Nous nous réjouissons d'approfondir cette relation afin d'aider la Tunisie à protéger ses ports et ses frontières et à faire reculer le terrorisme, a déclaré Mark Esper après avoir rencontré le président tunisien Kais Saied. L'objectif est de faire face aux extrémistes violents qui représentent une menace, mais aussi à nos concurrents stratégiques, la Chine et la Russie, aux comportements prédateurs, mauvais et coercitifs, a-t-il ajouté. Le rôle des États-Unis auprès de l'armée tunisienne s'est développé ces dernières années, notamment dans les domaines de la formation et de l'équipement pour la lutte antiterroriste, mais aussi dans le renforcement de la sécurité à la frontière avec la Libye voisine. La Tunisie, considérée depuis 2015 par Washington comme un allié majeur, a été un appui discret mais crucial dans le dossier libyen. Les deux pays mènent régulièrement des exercices militaires communs. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est minée par des conflits compliqués par l'ingérence de nombreux pays étrangers.
La Minute Éco, Nanit Kalani.
Le Ghana a produit 770 000 tonnes de cacao cette année, soit une baisse de 42 000 tonnes par rapport à l'an dernier. Ce volume représente le plus faible niveau de production de l'or brun enregistré par le Ghana depuis 5 ans, rapporte l'agence Bloomberg. D'après les autorités, ce recul s'explique par des épisodes de sécheresse et les ravages du virus du solène chaude dans les plantations, surtout dans la région du nord-ouest. Le Nigeria suspend pour 2 semaines la hausse des prix de l'électricité pour apaiser les syndicats qui ont menacé d'appeler à une grève générale. Les tarifs étaient passés de 33 à plus de 60 naira par kilowatt, alors que le gouvernement cherchait à renflouer ses caisses vidées par la crise économique. L'augmentation a déclenché la colère des Nigérians qui estiment que les subventions de l'essence et le faible coût de l'électricité sont les seuls bénéfices qu'ils retirent de leur pétrole. Pour terminer, la compagnie aérienne nationale namibienne veut réduire de moitié les salaires de son personnel alors qu'elle se prépare à reprendre ses vols après 6 mois d'interruption. la pandémie a exacerbé les difficultés financières d'Air Namibia, qui n'a pas enregistré de bénéfices ces 5 dernières années. La compagnie vit des aides gouvernementales et a besoin d'environ 414 millions de dollars pour rester en vol. Elle a 10 avions et environ 800 employés.
Les sports à présent avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous. En RDC, la reprise du championnat de football c'est cette semaine et le TP Mazembe s'active sur le marché des transferts de Kinshasa. La correspondante de Valdo Simo Yamba.
À 48 heures du démarrage du championnat de la Vodacom Ligue 1 saison 2020-2021, les champions en titre, le tout-puissant Mazembe, officialise les arrivées pour 5 ans de 2 milieux de terrain et un défenseur central, des compartiments non négligeables qui étaient dans les besoins chez les Corbeaux. Cédric Martial et Zembaï Kong en provenance des APG Dimfou du Cameroun. Les milieux de terrain de 21 ans, vainqueurs du championnat camerounais en 2018 avec Coton Sport, rejoint un club pour qui les titres nationaux est presque un acquis avant même les démarrages du championnat. Le plus grand défi reste sans nul doute la reconquête de la Ligue des champions de la CAF qui échappe au Corbeau depuis 5 ans. Le club de la capitale que peut faire a également pioché au niveau local et pas plus loin que chez son adversaire direct à Lubumbashi, les Saint-Ola Loupopo. Grandi Sundi Bibongé, 20 ans, le milieu de terrain va porter le valeureux maillot aux 5 étoiles de la Ligue des champions de la CAF avec les deux services. Les tout-puissants Gilbert Mazembe s'est également offert les services du désormais ex-capitaine des Loupopo, les Bobby Nemo Madi, 21 ans, les défenseurs central et désormais Corbeau. 20 ans, c'est la moyenne d'âge de ces recrues. Ils sont Mazembe jusqu'en 2025. L'un des géants du football africain mise dans la durée pour ainsi demeurer compétitif au niveau national et sur les continents.
Beaucoup de bruit pour rien. Accusé d'avoir tenu des propos racistes et homophobes, la superstar du PSG, Neymar, a évité hier des sanctions faute de preuves. Libéré donc de tout soupçon, le Brésilien peut enfin commencer sa saison. Le Real Madrid a remporté sa deuxième victoire en 3 matchs de championnat, le premier de la saison à domicile. C'était face à Valladolid 1-0 hier soir lors de la 4e journée de Liga. Largement dominateur, les hommes de Zinedine Zidane, sans le milieu de terrain allemand Toni Kroos, blessé au muscle fessier, ne l'ont toutefois emporté que par la plus petite des marges sur un but du Brésilien Vinicius Junior à la 105e minute, 7 minutes seulement après son entrée en jeu à la place de Luka Jovic. Avec donc 7 points, le Real se joint ainsi au groupe de tête aux côtés de Retafe, Valence et Villarreal. Mardi, Retafe a battu le Betis 3-0, Valence s'est imposé 1-0 à la Real Sociedad et hier, en début de soirée, Villarreal chez lui a dominé à la veste 3-1.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
programme d'aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, journée sans masque anti-Covid à Caï, une ville du sud-ouest où une jeune femme a trouvé la mort après avoir été interpellée par les gendarmes pour non-port de masque. D'après ses parents et la population en colère, la jeune femme serait décédée suite aux sévices qu'elle a subis à la gendarmerie. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Merveille Bazonzela, 23 ans, est morte dans son lit au matin de mardi. Selon sa famille et plusieurs témoins, cette fille qui souffrait d'épilepsie serait décédée des suites de sévices subis au poste de la gendarmerie d'un Kaili. Ce décès a enflammé les réseaux sociaux et suscité la colère de la population dans la cité sucrière, située à environ 300 km au sud-ouest de Brazzaville. Un témoin de cette ébullition raconte.
Et nous sommes allés, donc on a pris le corps, nous sommes allés à la gendarmerie. On a semé le désordre, les gendarmes sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait l'échange de paroles avec les gendarmes, comme on était dans la masse, on a pu ravir les armes auprès des gendarmes. Et après on a fait la casse, on a cassé les percées de la gendarmerie, la voiture qui était là-bas aussi on a cassé. Et nous sommes, on a déposé le corps à la gendarmerie, prenez votre charge, et on a pris la direction du marché, on allait faire le désordre.
Pour apaiser la situation, le maire d'Onkaï, Gaston Mampassi, s'est rendu à la gendarmerie où les parents de la défunte avaient déposé le corps de leur fille en guise de protestation.
La situation, oui, il faut le reconnaître qu'elle a été aussi trouble. Ça n'a pas été facile de maîtriser cette foule. Les gens, sachant qu'elle était interpellée par les services de gendarmerie, et donc ça a provoqué une grande réaction à la découverte de sa dépouille mortelle au grand matin. Mais dès lors que la dépouille mortelle a été arrachée aux mains de la famille dans les locaux de la gendarmerie pour être déposée à la morgue municipale, la foule s'est dissipée. Mais cette fois-ci, ils se sont dirigés vers le marché où ils avaient été animés aussi par les velléités les plus simples, c'est d'éventrer les magasins dans le marché central de Nkaï. Ce qui a été pratiquement empêché par notre réaction. Dès lors, bon, on peut dire que la situation est revenue au calme.
Les parents ont affirmé à VOA Afrique que leur fille, qui venait de voir ses dernières règles, n'était pas enceinte ni sourde. La justice a aussitôt ouvert une enquête. L'OCDH arrivé sur les lieux appelle à accélérer cette procédure. Monica Ngalula est responsable juridique à l'OCDH.
Que la justice fasse un effort d'identifier les présumés auteurs de ce crime et qu'ils répondent à leurs actes devant la justice. Oui, aujourd'hui, on peut dire que on peut les relever de leurs fonctions. Oui, ça ne suffit pas. Mais nous voulons que ces auteurs répondent de leurs actes.
Interpellé pour non-port de masque, Merveille Bazonzela a été tabassée par les gendarmes à terre, dans le véhicule et au commissariat. Selon un code de tenue, elle a été libérée dans la nuit alors qu'elle commençait à agoniser. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Guinée, des heurts ont opposé cette semaine les forces de l'ordre à des manifestants contestant la candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat. En Côte d'Ivoire aussi, la perspective d'un troisième mandat pour le président Alassane Ouattara fait craindre des violences. Dans une déclaration commune, des organisations de la société civile ouest-africaine se disent inquiètes pour la stabilité de la sous-région. Mohamedou Oumfa a joint à Dakar Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Yanamar, signataire de cette déclaration.
Cette problématique des troisièmes mandats est un vrai cancer pour la sous-région ouest-africaine. On voit actuellement ce qui se passe en Guinée. Alpha Condé force un troisième mandat, malgré le refus du peuple qui se mobilise, peut créer une situation d'instabilité en Guinée. À cause de ce projet de troisième mandat de Ouattara, s'il y a de l'instabilité en Côte d'Ivoire, aucun pays de la sous-région ne sera épargné. Et on voit aussi toute la situation d'insécurité avec des menaces terroristes, le djihadisme dans certaines zones de notre sous-région crée une instabilité dans nos pays de la sous-région. Ça crée le terreau en fait qui favorise l'avancée en fait de tout ce qui est djihadisme et terrorisme. Vous voyez ce qui se passe au Mali avec toutes les difficultés qu'il y a. Vous voyez au Sénégal, avec Macky Sall qui n'est pas encore clair sur cette question-là, les gens soupçonnent cette volonté-là.
Oui, en Guinée, justement, les manifestants s'opposent depuis hier aux forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, plusieurs partis de l'opposition appellent à la désobéissance civile. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure façon de résoudre ce problème de mandat? Comment faire?
Pour nous, la clé, c'est les citoyens de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO des citoyens et des peuples puisse harmoniser en fait ses positions, y aller ensemble dans le cadre d'une dynamique des peuples de la sous-région pour barrer la route en fait à tous ces projets de troisième mandat. Parce qu'en fait, c'est les présidents, c'est comme s'il se passait le mot, il y a un phénomène de contagion qu'il faut stopper, et la meilleure manière de la stopper, c'est qu'il y ait cette forte coalition en fait des peuples de la sous-région à travers toutes les organisations de la société civile et aussi les mouvements citoyens qui vont dans les semaines à venir avoir un agenda commun et poser des actes unitaires à l'échelle de l'espace CEDEAO.
Dans une déclaration des organisations de la société civile ouest-africaine, vous invitez les Nations Unies à passer du principe de subsidiarité à l'action directe. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Mais en fait, à chaque fois que le FNDC ou dans nos pays, les dynamiques citoyennes qui font face en fait au tripatriage constitutionnel ou au projet de troisième mandat, ils subissent en fait les exactions de ces tyrans-là. À chaque fois que l'ONU est saisie, l'ONU dit non, c'est la CEDEAO qui est compétente, qui doit se déployer, mais on sait que la CEDEAO ne fera rien du tout parce que la conférence des chefs d'État est composée pour la plupart de ces chefs d'État même qui constituent le problème, qui veulent briguer un troisième mandat. Donc du coup, l'appel à l'endroit de l'ONU, c'est de prendre ses responsabilités, donc c'est ça.
Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Yanamar au Sénégal.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Niger, les trois militants de la société civile arrêtés en marge d'une manifestation pour exiger la lumière sur les malversations financières au ministère de la Défense nationale ont été libérés. Ils ont passé plus de 6 mois en détention pour délit d'organisation d'une manifestation interdite, complicité d'homicide involontaire, incendie involontaire et destruction de biens publics. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
À l'espace France Fanon de l'association Alternative Espace Citoyen où ils ont été accueillis, les trois activistes avaient tous sous les lèvres un seul mot, la lutte. Moudi Moussa.
Notre premier sentiment, c'est effectivement de dire que la lutte ne fait que commencer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes les raisons pour lesquelles nous avons été amenés pratiquement en prison sont encore là et sont d'actualité.
Engagement et détermination donc, mais aussi et surtout déception pour Michael Zodi.
Mon regret est que aujourd'hui notre bureau n'est rien d'autre que notre ancien camarade, le ministre de la Justice. Le camarade avec lequel nous avons fait la lutte, aujourd'hui c'est lui le ministre de la Justice. Et c'est inadmissible. Les voleurs, ceux qui ont pillé, c'est sur qui tout le peuple entier en train de crier aux voleurs, sont en train de se pavaner dans les rues de Niamey. Nous autres qui dénonçons pour demander à ce qu'il y ait lumière, parce qu'il ne faudrait pas oublier dans cette affaire du ministère de la Défense, il y a eu mort d'hommes. Plusieurs centaines de nos militaires, de nos soldats, de nos frères sont tombés.
Détenus depuis mars dernier, Moukela Halidou, Michael Zodi et Moudi Moussa ont bénéficié d'une liberté d'office après l'expiration du titre de détention qui ne dure que 6 mois en matière correctionnelle et qui n'a pas été renouvelé. Pour dénoncer leur détention à l'expiration de ce titre, les organisations de la société civile ont prévu une manifestation dimanche à la devanture du palais de justice de Niamey. Elle est maintenue malgré leur sortie de prison, a déclaré Moussa Tiangari.
Nous sommes contents d'accueillir nos camarades, mais il faut que le dimanche, on se mobilise pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice, l'intrusion de la justice au pouvoir exécutif. Son utilisation dans le cadre des règlements des comptes, comme ce qu'on a eu à le dire et à le revendiquer ouvertement. Il faudrait que nous sortions en grand nombre pour dire que sur le dossier des malversations financières du ministère de la Défense, nous sommes encore debout et nous voulons que ce dossier-là connaisse un traitement judiciaire approprié, que des sanctions soient prises déjà conservatoires contre les personnes qui sont sur ce dossier-là. Il n'est pas question pour nous que ça soit enterré. Bien entendu, de façon générale, sur la gouvernance, nous restons debout.
Le dossier de l'audit du ministère de la Défense nationale pour lequel les trois activistes ont passé 6 mois de détention est actuellement entre les mains de la justice. Selon des sources, les personnes présumées impliquées dans le dit dossier ont été entendues, inculpées et mises en liberté provisoire. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le conseil municipal de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, a décidé de débaptiser la place Faidherbe, figure de l'entreprise coloniale française en Afrique de l'Ouest, et de lui donner un nom en wolof, la langue la plus parlée du pays. La place portera désormais le nom de Bayandar. Joint à Dakar par Eric Manirakidza, l'analyste politique Ibrahima Kan.
Je dirais quand même un pas vers une décolonisation véritable de nos villes. Vous savez, si vous visitez les grandes villes du Sénégal, notamment les 4 grandes villes coloniales qu'étaient Dakar, Saint-Louis, Gorée, Rufisque, vous remarquerez que la plupart des rues ont gardé des noms coloniaux. Le fait que ce qui s'est passé en Amérique a eu un impact sur l'esprit des gens ici de revoir ces aspects de notre vie de tous les jours, pour moi, est une bonne chose. Et vous voyez que, par exemple, dans la ville de Saint-Louis, on sait que toute cette partie du Sénégal a existé grâce à Faidherbe. C'est Faidherbe qui a conquis, qui a pacifié le Sénégal. C'est Faidherbe qui a pratiquement mis en œuvre une bonne partie du Sénégal. Et donc, Faidherbe garde toujours une empreinte sur le Sénégal. N'empêche que la plus grande place, bien la place mythique de la ville de Saint-Louis, a fait le nom de cette place, a fait l'objet d'un débat. Et ce débat a amené les autorités locales à repenser la chose. Et ce qui est même bien, c'est que le nom qu'ils ont donné à la place est un nom neutre, c'est-à-dire en wolof, la grande place de la ville de Ndar. Parce que Ndar, le nom de Saint-Louis, c'est un nom français. Ndar est le nom wolof de la ville. Et je trouve que c'est déjà bien. Et maintenant, ça va aider la génération à venir à être très regardante sur comment s'approprier nos villes. Parce qu'avoir des rues comme rue André Lebon, rue Pierre de Lille, qui n'ont aucune signification pour les Sénégalais d'aujourd'hui. Mais si on parle d'autres personnes comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme Blaise Diagne ou bien Lamine Gueye, Léopold Sédar Senghor, même dans une moindre mesure Abdoulaye Wade, ça fait tilt dans l'esprit des gens. Et personnellement, et je vais en terminer là, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont servi leur ville, qui ont servi leur pays et qui ne sont pas encore reconnues par la nation. Et pour moi, c'est l'occasion de pouvoir le faire.
Mais ces noms constituent quand même une partie de l'histoire du Sénégal. Est-ce qu'on va oublier tout ça ou y a-t-il un mécanisme qui est prévu pour que ça ne disparaisse pas dans l'histoire sénégalaise?
On ne va jamais oublier ces personnes. Prenez la ville de Saint-Louis que je connais très bien. Avant, vous empruntiez le pont Faidherbe. Ensuite, vous tombiez sur la rue Faidherbe et sur la rue du Général de Gaulle et ensuite sur la place Faidherbe. Vous voyez, quand on n'a que des noms qui rappelle la puissance coloniale, on peut se demander, mais à quand l'indépendance? Mais la ville a évolué, le Sénégal n'est plus un Sénégal colonial, c'est un Sénégal indépendant, c'est un Sénégal qui doit reconnaissance à ceux et à celles qui se sont battus pour que ce pays-là devienne indépendant, et je pense que ces personnes-là aussi méritent la reconnaissance de la nation en voyant, par exemple, leur nom, que des rues portent leur nom. Et dans ce sens, je dirais d'ailleurs qu'il y a quand même la part de nos dirigeants aussi un effort important à faire à féminiser les rues. Au Sénégal, ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus.
C'était Ibrahima Kan, analyste politique, joint à Dakar, au Sénégal. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée, à l'écoute.